forestier public, militant et inquiet. C'est la 28e émission de la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières.
Le monospécifique, c'est une hérésie, hein, on sait que ça ne marche pas, quoi. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi on le reproduit de façon stupide sur les Douglas, avec les Douglas, parce que ça ne fonctionne pas, quoi.
Il faut aller vite, mais prendre son temps. C'est-à-dire observer. Observer, partager les connaissances, parce qu'il n'y a pas de science exacte.
Nous voilà réunis fin juin 2019 dans une magnifique forêt à Saint-Vy près de Besançon pour l'Assemblée Générale du Réseau pour les Alternatives Forestières. Dans cette émission, nous écouterons les commentaires, les visions et les inquiétudes de trois forestiers travaillant à l'Office National des Forêts et ont participé à l'AG du RAF, Jean-Paul, Carole et Sylvestre. Commençons avec quelques courts extraits de leurs explications lors d'une visite guidée de cette forêt à Saint-Vy.
Il faut que les peuplements soient mélangés. C'est absolument indispensable. En haies très pures, le jour où vous avez, dans l'ouest de la France, sur des grandes forêts domaniales, ils ont eu des atteintes champignons-insectes, mais des milliers de mètres cubes, parce qu'ils avaient, du charme en mélange pendant un temps. Comme ils avaient des magnifiques hêtres, ils ont fait tout pour le hêtre. Et quand le peuplement est pur, Les pathologies sont catastrophiques. Nous, à l'état où on est, il faut mélanger avec toutes les essences. Voilà. Les forestiers, ils sont astreints à produire durablement et puis aussi à ce que les forêts continuent, parce que là, on est devant quelque chose qui est gravissime. Il va falloir reprendre les cartes stations. Par exemple, autour de Besançon, on a des facultés, on a des scientifiques, il y a des pédologues. Il faut retravailler sur la réserve en eau. Est-ce qu'on a des sols, les dalles calcaires, elles sont compactes ou fracturées? Quand seraient fracturées, c'est quoi la réserve en eau possible? Ce qu'on a sous les yeux, tout ce qu'on a sous les yeux, c'est des forêts qui ont été façonnées par la sylviculture. Voilà. Malgré tout, cette sylviculture, on s'en aperçoit, elle va montrer un certain nombre de limites. Et les limites, c'est que si on ne fait pas attention au mélange, au sol, à l'ensemble des peuplements avec une attention, enfin l'industrialisation de la forêt, on pourrait dire ça comme ça, de plus en plus de plus grosses machines, etc., on va avoir de gros soucis. Ça, nous, vieux, on en est persuadés. Voilà, on va avoir de gros soucis. Alors pour l'instant, nous, notre approche la plus naturaliste, c'est station. C'est-à-dire, on a les sols, on a la dynamique de végétation, quel type de plante pousse là, et depuis longtemps, quel potentiel pour les arbres, hein, est-ce qu'on ici on a un potentiel à chêne, à hêtre, quelles essences, voilà, ça c'est notre approche naturaliste, mais c'est une approche naturaliste qui n'est pas la forêt naturelle, c'est une approche naturaliste de forêt, de forestiers qui veulent préserver l'avenir et produire aussi du bois, voilà. Après, si on laissait aller tout ça, ça n'aurait pas du tout cette structure-là.
C'est-à-dire que maintenant, il faut revoir nos modèles, parce qu'ils ne fonctionnent plus. Ça veut dire que le modèle irrégulier, par petite éclaircie, avec une attention au milieu, une qualité d'intervention, une qualité de travail, etc., des engins pas trop lourds, etc., parce que le sol, il reste. Si on passe des gros engins et qu'on fait des cloisonnements partout, les sols se bétonnent, mais ça dure des siècles. On est sur des échelles de temps qui ne fonctionnent plus pour renouveler les forêts ici et maintenant, quoi, hein. Et d'autant plus que si on a des problèmes de réchauffement, il faut bien essayer de rentrer prudemment. Et on sait très bien aussi que le mélange tamponne les effets du réchauffement. C'est-à-dire, plus c'est mélangé, plus ça résiste. Ça, c'est prouvé. Mais en agriculture comme ailleurs aussi, hein, en foresterie.
C'est la volonté de produire massivement du bois qui est problématique devant la multifonctionnalité de la forêt. Si, pour nous, il est clair qu'on est rentré dans une période, malgré toutes les discussions sur l'environnement, les risques, le carbone et tout ça, de très forts prélèvements sur la forêt. À partir de là, comme disait Sylvestre, quand j'ai eu mon idée de réserve biologique, on était ensemble, il m'a dit « Tu travailles pour la vitrine de l'ONF ?» J'ai dit « Ouais, j'ai conscience de ça. » C'est-à-dire, on va vous montrer un endroit très naturaliste, mais pour le reste, on va faire fort, quoi. Et ça ne va pas aller. C'est ça, le problème. Le fond, c'est la productivité trop. Si on est trop productif, ben c'est démontré par les scientifiques, hein, trop de production massive, forte, etc. avec engins, fait qu'on n'est pas dans la gestion durable des forêts. C'est pas possible. Voilà.
Jean-Paul et Sylvestre, peut-être vous pouvez vous présenter, mais en gros, vous travaillez pour l'ONF Franche-Comté, mais vous êtes aussi membre de syndicat et un peu militant. Peut-être vous pourrez présenter déjà le rôle que vous avez au sein de l'ONF, et puis, ce côté plus militant, peut-être à côté. Qui veut commencer ? Sylvestre.
Bonjour. Moi j'ai fait une carrière à l'ONF, complète, sur le terrain. J'ai passé 40 ans dans un triage assez banal, surtout en Franche-Comté. J'ai commencé en Moselle, donc j'ai commencé dans du très très beau chêne à côté de Saint-Avold. Et j'ai fini en Franche-Comté parce que la région m'a plu et mes parents habitaient là. Voilà, c'est un peu les hasards des choses qui m'ont mené là. Et tout de suite je me suis syndiqué, à l'époque c'était la CFDT qui était très militante verte à l'époque, les années 70-73. Et je suis resté fidèle à ça, mais en changeant de syndicat, puisque la CFDT n'est plus ce qu'elle était.
Donc c'est ce qu'on appelle le SNUPFEN, qui est un nom un peu compliqué.
Oui, Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l'Espace Naturel Solidaire. Hein, on est affilié évidemment à Solidaire, Solidaire, ça veut dire que quand il y a eu la réforme des retraites, par exemple, on a assez peu apprécié les réformes Juppé, par exemple. Et du coup, on a dit, on ne reste plus la CFDT, on se crée une structure spécifique, Solidaire, à l'ONF. Et pratiquement tous les adhérents de la CFDT sont passés à Solidaire.
Donc Jean-Paul, toi aussi, tu as plutôt bossé ici directement dans les forêts ou...
Directement, 40 années, je dis garde forestier encore... personnel de terrain de l'ONF, garde forestier 40 ans, dont 28 ans, tout en Franche-Comté, dont 28 ans dans la forêt de Besançon, qui est un grand massif forestier, 1600 hectares, appartenant à la ville de Besançon. Voilà.
J'aimerais savoir, quand vous dites que vous êtes responsable pour une forêt de 1600 hectares, est-ce que vous êtes seul comme ça, ou vous avez des collègues, comment ça fonctionne ? Il y a une équipe ?
Moi, j'avais un rôle un peu particulier parce que j'étais un agent animateur dans une forêt très périurbaine qui très tôt a accueilli des classes depuis les années 80 pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'éducation à l'environnement, pour la forêt, etc. Donc j'avais une plus petite surface de forêt. Je ne gérais pas les 1600 hectares de la forêt de Besançon. J'en avais que 400 hectares, il y avait une pépinière, il y a des parcs animaliers, je faisais de l'animation, plusieurs rôles comme ça. Et puis les réformes avançant, je me suis retrouvé aussi avec d'autres communes. Nos territoires ont quand même grandi, Mais j'avais un rôle un peu particulier d'agent animateur. On a une grande chance d'avoir vu le SNUPFEN à côté de nous. Un des premiers secrétaires généraux écrit un livre sur France, ta forêt, fous le camp. Et ce syndicaliste et ces syndicalistes du SNUPFEN ont une préoccupation des personnels et des postes, mais une énorme préoccupation de la forêt, de très tôt. Et nous, ça nous a engagés dans les batailles sur les pluies acides, quand on a commencé à avoir des problèmes de dépérissement d'arbres attribués aux pollutions atmosphériques. On a été très engagés avec ce syndicat, et puis ce syndicat nous a amené à une bataille frontale, terrible, à partir d'une réforme de 2002, où l'ONF... est prise en main par les cabinets d'audit américaines et où on va tout déstructurer. Toute cette culture ancienne qui vient de loin, de Colbert, du Code forestier, ces syndicats qui ont une... L'ONF disait, les forestiers aiment la forêt, ils n'aiment pas l'entreprise ONF. Et il faut changer ça. Et ils se sont donné les moyens, mais ça a été redoutable pour nous.
Mais pour revenir sur le Franche-Comté, je veux dire, les régions en France... sont très différentes par rapport à la question de la forêt. Il y a des... Enfin, comme moi j'ai pu voir, je ne suis pas vraiment professionnel, mais on va sur le plateau de Millevaches, c'est une forêt qui a été plantée un peu brutalement il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas vraiment de culture. Et il y a... Ici, on a l'impression que la forêt était là depuis très longtemps, qu'il y a une sorte de culture, qu'il y a une forte connaissance sur la forêt, non?
Oui, c'est vrai, moi, je suis d'accord avec vous. Là. En fait, il y a un ONF qui est national, c'est un peu l'ambiguïté ou le problème de la... C'est un des paramètres qui fait que la chose est compliquée. Parce que d'une part, il n'y a qu'un ONF et il y a un quart nord-est, quelque part, avec une culture forestière, des traditions forestières, des usages locaux, des territoires, de la production aussi, parce que c'est beaucoup des forêts de production. Et une histoire, évidemment, longue de ça, avec une technicité, c'est pas un hasard si les écoles forestières se trouvent ou se trouvaient à Nancy, par exemple. Bon. Et ça, c'est le signe que, voilà, il y a une histoire avec le quart nord-est forestier. Donc, avec un ancrage sur les territoires. Et pour la Franche-Comté, il est particulier. C'est-à-dire que dans le cadre de la fusion Bourgogne et Franche-Comté, c'est vrai que malgré la fusion administrative, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore deux régions. Il y a la Franche-Comté d'un côté et la Bourgogne de l'autre. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a un statut de la propriété en Bourgogne qui n'est pas le même qu'en Franche-Comté, à commencer par ça. C'est-à-dire qu'en Franche-Comté, on a 55% de forêt communale et 2% à peu près, on disait tout à l'heure, de forêt domaniale. Ça veut dire qu'en grande majorité, la forêt est publique et les 1700 communale. Et communale en particulier, et communale partagée par à peu près 1700 communes. 1700 communes qui ont des usages très anciens de pratiques de la fouage, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un attachement, il y avait un attachement, malgré l'urbanisation, un attachement très fort des populations locales à leurs forêts et aux aménités forestières, comme on les appelle, aux profits qu'ils peuvent en tirer. C'est-à-dire qu'il y avait attribué par feu, on appelait ça par feu, c'est-à-dire par foyer, par ménage, un certain nombre de stères de bois qui étaient disponibles en forêt à titre gracieux pour ses commodités, se chauffer, faire sa cuisine, etc. Et ça, c'est les usages anciens qui demeurent encore très largement, même s'ils sont largement encadrés administrativement et de plus en plus contraignant au niveau des volumes, au niveau des transactions, tout ça, on sent bien qu'il y a d'autres intérêts qui piaffent justement sur la possibilité de capter cette ressource, mais à des fins tout à fait différentes et absolument pas locales.
Mais il me semble qu'on utilise ce mot aménité aussi maintenant dans les temps modernes, aussi d'une autre manière, c'est-à-dire on parle un peu plus de carbone, de climat, peut-être de l'eau, purification de l'eau, enfin plein de services et même ressourcement de nous, les humains, qui peuvent balader en forêt, se calmer un peu face au rythme de la vie actuelle, enfin, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour la population ici aussi.
Ce que je voulais dire, c'est qu'en 2002, l'ONF n'a pas fait le choix des aménités forestières. Nous, notre gros regret, c'est de ne pas s'être engagé dans le rapport Chevassieu-Louis qui montre que les intérêts de la forêt sont très au-delà de la production de bois pour l'avenir, c'est-à-dire l'épuration de l'eau, le carbone, etc., la santé, beaucoup de choses comme ça. Et c'est très dommage parce que l'ONF, à partir de 2002, s'est orienté vers plus de récoltes, plus loin d'une gestion multifonctionnelle qui permettrait, à l'instant où on est là, où il y a une crise gravissime qui s'annonce. Là, il y a la sécheresse l'année dernière, mais on voit bien qu'il y a quelque chose dans le climat qui change, et il va falloir réfléchir à nos modèles de sylviculture, à la biodiversité, agir. C'est complexe, j'allais dire. J'aurais mieux aimé la situation des forestiers du 18e qu'avaient les forêts déboisées et qui reconstituaient. Elle est, à mon avis, plus facile que ce qu'on a devant nous. Mais...
Oui, je voudrais compléter à ce que dit Jean-Paul. On a un ami qu'on a invité, qui est remarquable, c'est un prix Nobel alternatif, Raoul Monténégro, qu'on a invité en Franche-Comté à plusieurs reprises. Et moi, j'étais très surpris. Un jour, il nous a dit « Ah, vous les forestiers français, en tout cas en Franche-Comté, vous me faites penser aux Indiens Guarani. » Il dit « Vous avez une lecture de la forêt. » Et ça m'a beaucoup troublé, une lecture de la forêt. C'est-à-dire que ben oui, peut-être qu'avant de lire, il faut savoir son alphabet, savoir son vocabulaire, savoir décrypter, décoder, et après, comprendre et rentrer en relation. Parce qu'on ne peut n'existe que ce qu'on peut nommer quelque part. Et c'est vrai que cette idée-là, Et la multifonctionnalité porte ça, parce que ce n'est pas un mot sorti d'un chapeau pour faire un effet de manche. C'est simplement quand on rentre en forêt, comment on y rentre. Et peut-être que la forêt, et c'est le sens aussi de beaucoup d'ouvrages en ce moment, les milieux naturels, peut-être qu'ils nous ont vus avant qu'on les voit. Ils nous voient peut-être mieux qu'on les voit. Alors, je ne veux pas faire du mysticisme à 3 francs 6 sous, mais peut-être si on rentrait avec un peu plus d'égard dans des milieux qui sont d'une immense complexité et qui procurent des aménités, mais de fondamentales, de base, à commencer par être bien quelque part, et à respirer à plein poumon, et d'avoir de l'eau propre, et d'avoir de la biodiversité, et d'avoir un renouvellement, par exemple, de l'eau. Ernst Jurcher, qui va parler là tout à l'heure, va nous parler de choses absolument merveilleuses qui se trouvent dans des laboratoires. C'est-à-dire la science la plus avancée, la plus pointue, nous prouve, au fond des éprouvettes, que être en forêt et y être bien, c'est pas une histoire sortie d'un chapeau. Voilà.
Oui, c'est embêtant parce que quelque part, je pense que nous tous, on n'a pas envie de quantifier, de faire des calculs, de mettre des valeurs en euros sur des choses comme ce que voilà, on parle là. Mais en même temps, c'est presque obligatoire si on veut convaincre un gouvernement ou une direction de l'ONF ou d'autres gens, ou l'industrie du bois, que ben, s'il fallait purifier l'eau autrement. Je sais pas comment on le ferait. Voilà, mais bon, peut-être on peut revenir sur la forêt. Ici, j'aimerais bien rapidement, autour de moi, je vois des très beaux chênes, il y a des charmes, il y a des hêtres. Donc, est-ce que c'est une forêt assez uniforme ou est-ce que c'est très varié en Franche-Comté? C'est quoi les caractéristiques?
Ce qu'on a sous les yeux fait qu'on a encore un très joli mélange hêtre et chêne. Et bon, nous, on y est très touchés, on est très attachés, parce que le mélange, c'est indispensable pour l'avenir. C'est-à-dire, quand on a une tendance, et la hêtraie, c'est facile d'aller vers la hêtraie pure dans ces milieux, parce qu'elle est très colonisatrice, elle se plaît dans ces milieux, mais il est indispensable pour nous que les forêts restent mélangées. Et ça, on l'a sous les yeux, là, encore.
Parce qu'il y a une meilleure résilience.
Il est évident que quand on a des pathologies, des grosses pathologies sur une essence, la hêtraie, on a connu ça, des grosses pathologies dans l'Ouest, à partir du moment où on n'a qu'une essence, les atteintes sont fulgurantes, quoi. À partir du moment où les peuplements sont mélangés, les pathologies et les atteintes sont très différentes.
Mais j'imagine que vous n'êtes pas trop d'accord avec certaines thèses qui sortent, entre autres, d'INRA, de certains personnages assez connus à l'INRA, qui disent que, si j'ai bien compris, en gros, que les forêts vont péricliter en France, enfin les forêts autochtones, natives, enfin naturelles, comme on leur, enfin, je ne sais pas comment on veut l'appeler, mais ce qui est là. Et donc, autant les couper tout de suite, en gros, enfin, augmenter considérablement leur récolte et les remplacer avec des arbres plus résistants au changement climatique, mais ça veut dire des plantations, et plus ou moins monospécifiques. Donc, parce que vous avez dit avant, il faut agir, il faut agir face au changement climatique. Le problème, c'est qu'il y a vraiment des différentes manières d'agir.
Oui, alors c'est le paradoxe, et là c'est passionnant, c'est là que ça devient vraiment intéressant, me semble-t-il. Enfin, c'est pas que le reste ne le soit pas, mais il faut aller vite, mais prendre son temps. C'est-à-dire observer. Observer, partager les connaissances, parce qu'il n'y a pas de science exacte. Les territoires, c'est des mosaïques, surtout la France. Je veux dire, voilà, c'est mosaïqué, les sols, on l'a vu tout à l'heure quand on a fait notre petite tournée, il y a des profondeurs de sol, il y a de l'humidité, il y a une histoire aussi de cette gestion-là. Donc à chaque pas, presque, ou chaque 10 pas, il faut avoir une pensée qui vient s'en rajouter à 1000 autres, de façon à après dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Et on essaye. Mais en même temps, il faut faire ça vite. Et c'est pour ça que je parlais du forestier généraliste. C'est-à-dire que le forestier généraliste, il travaille en équipe avec d'autres, avec des scientifiques, avec aussi des naturalistes, avec des gens, des vieilles personnes qui ont encore la mémoire de ce qui s'est passé dans cette forêt, avec, etc., etc., avec des historiens de la longue durée par rapport au sol, parce qu'un sol, il y en a pour des dizaines de milliers d'années. Et combien de fois, nous, on s'est rendu compte, devant des problèmes de sylviculture, que... Eh bien, il y avait une présence humaine, il y a eu, ça a été anthropisé, etc., et que la clé était toute trouvée, mais encore fallait-il le savoir. C'est-à-dire qu'il faut mettre un peu d'intelligence ou de science ou de connaissance et surtout partager les corpus de connaissances. C'est-à-dire on est dans des pensées séparées, c'est pour ça qu'on pense mal.
Ouais. Moi, je pense à un chercheur. Je pense à un chercheur que j'ai découvert récemment qui s'appelle Francis Martin de l'INRA, qui fait un gros travail sur les champignons mycorhiziens et la forêt. Et ce lien étroit pour la santé des forêts entre les champignons et les arbres, c'est un lien historique. C'est ce lien qui permet aux arbres, il y a 150 millions d'années, de s'installer, de coloniser l'espace, enfin, aux végétaux. Et comme dit Sylvestre, il y a à l'INRA quand même plein de gens qui ont une vision du long terme, de la résilience, de la complexité. Et ces chercheurs-là, on en aura besoin. Les forestiers, ils ne vont pas résoudre les choses tout seuls.
Le problème, c'est que si je comprends bien à l'ONF, de plus en plus des gens comme vous, peut-être pas vous-même, mais enfin, de plus en plus tendance à rester ou de plus en plus au bureau avec des logiciels dans des ordinateurs, gérer de loin, est un peu le contraire de ce que vous souhaitez, quoi, d'être. Parce que moi, j'étais frappé. Hein, on a vu un secteur de quoi, 14 hectares, je crois, c'était, et il y avait peut-être 7, 8, 9 zones. Assez clairement définissable dans ces 14 hectares. À la limite, il faudrait traiter complètement différemment. Et ça, c'est seulement possible si on est vraiment sérieusement sur le terrain, quoi. Avec un monde quand même assez considérable, pas juste une personne.
Nous, on a eu la chance dans les années 80, en Franche-Comté, d'avoir un haut niveau de formation permanente qui s'est mis en place. C'est une dame ingénieure, Madame Rouillet, qui a mis ça en place à partir de 86. Et on a fait de la botanique, la pédologie à haut niveau par petites séquences avec des niveaux 1 et 2. Et on est entré de plein fouet dans la complexité. Parce que, j'allais dire, nos anciens, ils avaient une vision plus simple, ils n'avaient pas les formations. Mais nous, ça a été de 85 à 2000, une période extrêmement riche pour comprendre la complexité et tout le travail station. Analyse des stations, cartographie des milieux écologiques de la forêt, ses différences, ses potentialités, c'est ce temps-là qui l'a produit. Voilà. Et on a l'impression que l'ONF s'est détourné de ça aujourd'hui, quoi, pour aller vers je ne sais quoi d'ailleurs.
Mais on a parlé juste avant, là, quelqu'un a parlé du plan forêt-bois, il y a des plans forêt-bois pour toute la France. Qu'est-ce qu'ils disent pour la Franche-Comté ?
Alors, le premier plan forêt-bois régional, c'est celui de Bourgogne-Franche-Comté. Il a été signé en début d'année. Un mois après, l'industrie du bois s'est retrouvée de l'énergie. Les gens les opérateurs de l'énergie de Bourgogne-Franche-Comté se sont retrouvés pour signer avec l'État et l'ONF un accord cadre. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dorénavant, on va regarder la forêt comme une ressource de type minier. Bon, moi ça me fait problème cette affaire-là, parce que c'est peut-être le contraire de ce qu'il faudrait faire.
Ça veut dire qu'ils préconisent une augmentation assez considérable de la récolte, c'est ça, concrètement ?
Oui. 1,3 million et quelques mètres cubes de plus à l'échéance 2028. Voilà, hein, c'est ça le cadrage. Évidemment, avec de superbes intentions sylvicoles, naturalistes, tout à fait intéressantes, mais les volumes sont là. Et ce qui...
Ça veut dire quoi, les volumes sont là, vous...
Les volumes sont indiqués, c'est-à-dire qu'ils seront à un moment opposables. Et j'ai du mal à ne pas faire le lien entre ce qui se passe à l'ONF, où demeure, malgré des réformes successives extrêmement toxiques auprès des personnels, une culture forestière multifonctionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire, après tout, à des populations qui ont des désirs et des intérêts, et surtout en Franche-Comté. Mais en Lorraine, c'est pareil. Bon. Et donc, à mon avis, la réforme, là on parle de la mission interministérielle qui vient de sortir son rapport discrètement ces jours-ci et qui semble, d'après les médias dominants, j'ai entendu ça à France Culture encore pas plus tard que ce matin, vouloir faire une bonne place à la lutte contre les effets du changement climatique. Quand on regarde la complexité des problèmes et les différentes entrées et ce qu'il faudrait peut-être ne pas faire en forêt, on peut craindre que ces mauvais choix soient ceux-là, justement, ces sous-priorités prétexte de faire, de produire de l'énergie dite verte, entre guillemets, je mets des gros guillemets, eh bien, on passe en coupe réglée des beaux peuplements comme celui dans lequel tu nous interviews, hein, cette belle futaie de chêne, de hêtre mélangée avec du charme, quoi. Et qu'à terme, l'objectif pour les industriels, puisqu'il y a un problème évidemment énergétique, comment remplacer les énergies fossiles, eh bien, de remplacer rapidement ça, ce type de peuplement, par des peuplements, des plantations à croissance rapide. C'est quand même ce qu'il y a dans la tête de tout technocrate un peu moderne.
Alors Carole, toi tu travailles à l'ONF, dans la région Jura.
Dans le Jura.
Oui, ouais, alors on n'est pas très loin, on est à Franche-Comté pour une réunion du RAF, dans le Doubs. Et c'est des régions avec des très belles forêts, on n'a pas trop l'habitude, parce que souvent on va dans des régions avec des forêts nettement moins belles. Est-ce que tu pourrais me décrire un tout petit peu les forêts où tu travailles dans le Jura?
Oui, alors moi je m'occupe de 10 forêts communales sur le premier plateau du Jura, donc qui sont pour la grande majorité des forêts mixtes, résineux feuillus, donc en sachant que le résineux est là parce que il y a eu le Fonds forestier national qui a passé par là tout de suite après la guerre et qui a favorisé ce genre de plantation. Donc c'est de la structure en futaie régulière dans la grande majorité des cas. Dans tous les cas, pour ce qui concerne les résineux. Et pour les feuillus, j'ai quand même une commune qui a un aménagement, enfin un plan de gestion, donc du coup, c'est comme ça qu'on dit, en futaie irrégulière.
Voilà, juste pour... Il y a toujours quelques auditeurs et auditrices qui ont du mal peut-être avec des termes, donc futaie irrégulière, en gros, ça veut dire que les arbres, ils ont tous le même âge, c'est ça?
Futaie irrégulière, c'est ça, voilà. C'est soit c'est issu de plantation, donc les plants ont tous le même âge, soit c'est issu de semi-naturels, mais c'est à un moment donné dans la structure du peuplement, on arrive au stade définitif. Le sol s'est bien régénéré, et donc on décide d'enlever tous les arbres au-dessus, et on repart avec du semi, mais donc ils ont sensiblement tous le même âge. Voilà, donc on repart sur une structure régulière. Et la structure irrégulière, ben vous avez toutes les strates. En général, quand le peuplement a été bien suivi, toutes les strates de végétation, à savoir le semis, le petit semis, le fourré, le stade fourré, le stade gauli, le perchi, la grande futaie. Donc tout ça, si c'est possible, ben harmonieux et agréable. Donc ça demande aussi de l'intervention. Donc,
ce qui veut dire qu'il y a une couverture permanente.
Tout à fait. Voilà, le sol, il n'est jamais mis à nu. Bon, quand on passe au stade en futaie régulière, quand tout est issu de semi-naturel, on n'a pas cet effet couperase non plus. On a simplement un effet visuel de plus rien, quoi. Parce que les gens qui ne connaissent pas le cycle de vie d'un peuplement comme ça ont une impression qu'il ne reste plus rien. Mais en fait, il y a toujours quelque chose. Ceci dit, c'est quand même très traumatisant pour et le sol et... Et le peuplement avoisinant, enfin, c'est traumatisant en général, de toute façon.
Et parfois aussi pour les forestiers ou les forestières.
Oui, oui, pour les forestiers, pour les gens qui se promènent, qui ont du mal à comprendre. Je le vis assez souvent pour le savoir. J'ai eu des réflexions du style, mais pourquoi toute cette zone a été coupée? Ils appelaient l'endroit, ça faisait un dôme, et ils appelaient ça le Mont Pelé, alors que c'était des semis naturels, il n'y avait pas eu de plantation. Mais bon, ça, les gens le vivent assez mal, ça. Ouais.
Mais est-ce que toi, par exemple, tu as une vision, j'imagine, personnelle, après il y a une vision de la boîte, hein, enfin de l'ONF, avec des directions qui viennent souvent de loin, est-ce qu'il y a des conflits, est-ce que toi, tu, par exemple, tu essayes d'aller vers cette futaie irrégulière?
Ouais, j'ai vécu ça il y a 2-3 ans, là, on a refait l'aménagement d'une commune en particulier, où j'aime beaucoup le peuplement. Et c'est un peuplement certes vieillissant, enfin ce que nous on appelle en tant que forestier vieillissant, c'est-à-dire le diamètre d'exploitabilité est là. Quand je dis diamètre d'exploitabilité, c'est pas la durée de vie de l'arbre, hein, on est bien d'accord, c'est le diamètre d'exploitabilité. C'est au moment où on peut récolter les bois, le moment propice où on peut récolter les bois en fin de vie du peuplement, puisqu'on est en futaie régulière. Et du coup, j'étais toute seule, nous étions quatre, j'étais avec trois autres collègues, et j'étais la seule à vouloir enclencher un système de, d'irrégularisation du peuplement. Et évidemment, je n'ai pas été entendue. On m'a dit, mais oui, mais c'est compliqué, tu comprends, les arbres, quand ils sont très vieux, ils fournissent moins de graines. Voilà, voilà les arguments qu'on m'a donnés, et peut-être qu'ils sont vrais. Hein. Peut-être qu'ils sont vrais, ceci dit, les semis, on en avait pas mal déjà, et on aurait pu, de proche en proche, faire des placos, enfin des petites placettes et couper les très gros bois, et enfin, essayer de ressembler à ce que peut faire la nature quand il y a un coup de vent, puis qu'elle fait tomber 3-4 arbres, et puis crée une clairière où le semis s'installe et tout. Parce que c'est vrai que ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que la forêt a tendance à se régulariser naturellement. Et la futaie irrégulière, c'est quelque chose qui nous oblige à intervenir, quoi. Si on ne faisait rien, elle s'installerait naturellement parce qu'il y aurait des phénomènes naturels qui favoriseraient son installation. Mais comme on gère à peu près... Enfin, il n'y a plus de forêt naturelle en France. Hein. Du coup, on est interventionniste aussi pour avoir de la futaie à la fois jardinée dans le Haut-Jura, c'est-à-dire des travaux, des coupes régulières. Et du coup, mais aussi, on a en retour un paysage qui est extrêmement agréable. Quoi. Voilà.
Tu parlais avant d'exploitabilité, donc ça, c'est aussi, on pourrait dire, un peu à une échelle variable, parce que maintenant, on exploite par exemple des douglas ou autres, beaucoup plus jeunes qu'avant. Il y a moins de scieries qui coupent les gros bois, donc ça, c'est un peu quelque chose que vous voyez aussi, hein, qu'on coupe les arbres plus jeunes ?
Ah bah bien, tout à fait, oui. On voit que les diamètres d'exploitabilité se réduisent, aussi bien pour les chênes que pour les hêtres, on le voit. Les résineux, pareil, hein. Oui, c'est sûr, c'est diminué. Hein.
Est-ce que dans le Jura, il y a ce qu'on pourrait appeler une culture forestière ? Parce que ça, ici, en Franche-Comté, on le sent bien. Ouais. Par exemple, le Limousin, pas du tout, parce que c'est des forêts qui ont été créées artificiellement il n'y a pas si longtemps. Mais dans le Jura ?
Oui, le Jura, il y a une grande culture forestière. Moi, je le vois au sein des communes dont j'ai la gestion. Il y a énormément d'infoagistes. Bon, c'est un peu en train de baisser en ce moment, puisque les populations vieillissent dans nos villages. Et du coup, le renouvellement a un petit peu de mal à se faire. Mais je pense que des jeunes qui ont envie, parce qu'il faut aussi être un minimum équipé pour aller faire de la fouage. Mais c'est vrai que les gens auraient du mal à admettre que demain devait s'installer quelque chose comme vous avez à Gardanne, là, et qui viendrait et qui dirait bah, maintenant ce bois-là, on ne le met plus à la fouage, on le réserve pour l'entreprise. Je pense que ça ne passerait pas du tout, quoi.
L'intérêt des habitants plus large pour ce qui se passe avec la forêt ? Je veux dire, s'il y avait des coupes rases un peu plus grandes, il y aura des réactions ?
Je ne sais pas jusqu'à quel point. Pour ce qui concerne pour le feuillu, les gens sont très sensibles. Les résineux, j'ai envie de dire, à peine moins. Quoi. Là, j'ai eu le cas là, récemment d'une parcelle qui était constituée pratiquement à 80-90% d'épicéa. Et on a dit, elle est complètement mitée, c'est-à-dire qu'il y a des attaques de scolytes de proche en proche. Et donc, du coup, ça mite la parcelle complètement. Et du coup, on a estimé qu'il fallait prélever au moins tous les épicéas, y compris ceux qui étaient encore verts, parce qu'on sait que c'est en train de tout sécher. Là, à nos altitudes, à nous, là, c'est un vrai souci. Et donc, ne reste que les sapins et quelques feuillus qui étaient là, pas suffisamment nombreux. Et c'est vrai qu'on a un aspect un peu... de désolation. Et les gens ont été interpellés par ça, mais je n'ai pas eu tellement de retours, pas plus que ça, quoi.
Autre question, tes camarades de l'ONF ici, Franche-Comté, observent évidemment beaucoup la forêt, ils sont inquiets par rapport à réchauffement climatique, sécheresse, l'impact. Qu'est-ce que tu vois chez toi ?
Moi, je vois donc les épicéas, on sait que c'est de toute façon en lien avec le réchauffement climatique, mais les sapins aussi, on commence à voir, moi je les vois depuis où j'habite, moi j'habite à 800 mètres d'altitude, je vois des taches rouges sur la colline en face de chez moi, et c'est les sapins qui sont en train de sécher, et c'est la première fois depuis que je suis dans le Jura, ça fait 20 ans que je suis dans le Jura, que je vois, même sur des forêts dont j'ai la gestion, des sapins qui rougissent de la cime jusqu'à la branche la plus basse, quoi. Ils sont rouges, mais un rouge éclatant. Hein. C'est impressionnant. J'avais jamais vu ça avant, quoi.
Ça veut dire clairement, c'est des arbres qui sont en train de mourir.
Ah ouais, c'est des arbres qui ont souffert de la sécheresse, et je pense la sécheresse déjà de l'été dernier, qui a été extrêmement impactante, avec aussi un manque d'eau qui s'est fait sentir, même dans les mois précédents, là, hein, parce qu'on n'a pas tellement eu de pluie. Hein. On a eu de la pluie, mais pas tant que ça. Hein. Et puis là, avec de nouveau le coup de chaud qui arrive, là ça a été... Il y a ça. Bon, après, la calarose sur le frêne, donc un champignon, ça c'est la mondialisation, c'est un peu comme la pyrale d'huile, parce qu'on a aussi ça, nous, dans le Jura, je ne sais pas dans d'autres régions comment c'est, mais nous, on a une attaque sur les buis. Donc, je ne vous dis pas aussi l'aspect des pans entiers de certaines de nos collines qui sont tout secs.
Ici, ils ont parlé de hêtres aussi très grands qui ont séché.
Mais c'est plus problématique sur le Doubs que sur le premier plateau du Jura. Visiblement, parce que je n'ai pas constaté de choses comme ça. Par contre, nous, on a un coup de gel au mois de mai, là, alors que les feuilles étaient déjà là. Et donc, on le voit sur certains jeunes plants de chêne, jeunes semis, enfin, on voit que ça a été gelé. Mais des hêtres adultes qui sèchent, moi, j'en ai pas constaté, pas de façon anormale, quoi, autant que ça allait dans le Doubs.
Et toi, ou alors avec tes collègues, j'imagine que vous discutez pas mal, ou vous réfléchissez, enfin, comment réagir? Parce que quelque part, comme Sylvestre l'a dit, il y a urgence d'agir, il ne faut pas trop traîner, mais en même temps, il faut prendre le temps pour comprendre. Et donc c'est un peu contradictoire quelque part.
Oui, bah j'avoue que quand on en parle entre nous, on se sent un peu démunis, hein. Surtout quand on a une structure forestière où sur les feuillus, moi j'ai pas de structure forestière pure, c'est-à-dire j'ai pas de chênaie pure, j'ai pas de hêtraie pure. J'ai beaucoup de forêts en mélange, donc c'est un petit peu ce qui nous préserve. Mais bon, quand vous avez des frênes qui sèchent à cause d'un champignon en paillaille, et il y en a énormément dans nos forêts, si vous avez, on a en plus des chênes là qui sont aussi en train de certains sont pas en très grande forme, on va dire. Ouais, bah, y a tellement d'arbres qui ont des soucis, les érables, les châtaigniers, c'est impressionnant, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant.
Mais ce que toi tu es en train de dire, si j'ai bien compris, c'est un peu, en tout cas, ce que les deux collègues ils ont dit pour ici, c'est qu'il faut surtout avoir des forêts mixtes, que tout ce qui est monospécifique n'est pas bon, quoi.
Ça, c'est, ouais, le monospécifique, c'est une hérésie. Hein, on sait que ça ne marche pas, quoi. Donc moi je comprends pas pourquoi on le reproduit de façon stupide sur les Douglas, avec les Douglas, parce que ça ne fonctionne pas, quoi. J'ai fait une formation il n'y a pas longtemps, on a parlé de la nécrose cambiale du Douglas. Ça fait des fissures sur l'arbre qui déprécient complètement le bois et qui le rend pas inutilisable, je pense, mais qui altère grandement ses qualités techniques. Et puis je pense que je ne sais même pas s'il est vraiment utilisable d'ailleurs à ce stade-là. Moi, je n'ai pas tellement de Douglas dans mes forêts. Donc, ni à ce stade de gros bois, je dois avoir eu quelques parcelles qui ont été déjà exploitées, enfin, ou vendues pour être exploitées pour faire du siège, mais je n'en ai pas tant que ça. Donc, je n'ai pas tellement pas trop de connaissances là-dessus. Mais du coup, c'est ce qui se passe dans le Morvan et je l'ai vu. Et je pense que se complanter ça il y a quelques décennies, bon, se réveiller un matin avec de gros soucis, quoi.
Oui, mais il y a quelques décennies, si au moins on avait appris de...
Mais on le sait, ça.
Mais, oui, mais il me semble que dans la forêt privée, avec des coopératives, mais aussi à l'ONF, il y a toujours une volonté de plantation monospécifique.
Oui, parce qu'on sait qu'on considère qu'un Douglas à 40 ans, on peut tout récolter. On se dit que 40 ans, c'est pas si loin que ça, finalement. Et un peu comme ça se passe dans les Landes, hein, j'ai entendu 30 ans pour les pins. C'est juste ahurissant, quoi. Ouais, c'est je crois que c'est le profit à court terme qui fonctionne, là. Alors qu'un chêne, il faut 250 ans pour en faire un. Quand on raisonne en diamètre d'exploitabilité, j'entends. Et même s'ils l'ont baissé un petit peu, là, plutôt 180 maintenant, on va dire. Ouais, 250 ans, c'est combien de fois la vie d'un homme, quoi, moyen. Donc, les gens veulent pas, quoi, veulent pouvoir compter. C'est comme quand on plante des peupliers, qu'on les plante le jour de la naissance de la fille pour que ça serve pour la dot, c'est-à-dire 20 ans après, ils sont récoltés, quoi.
Donc, oui, mais c'est ce que j'ai entendu plusieurs fois, c'est que des gens remarquent que les arbres, ils vivent moins longtemps que nous, les humains. Quoi,
ça, oui, on est en train d'être la première génération de forestiers qui va vivre ça. Quoi. Donc ça, c'est juste pas possible. Quoi. Faut que les gens, c'est pour ça que je pense qu'il faut que les gens prennent conscience de ça et se mobilisent. Hein, parce que les gens, on le sait que des particuliers qui récupèrent une maison de famille sont contents de pouvoir dire c'est mon arrière-grand-père qui a planté ce chêne. Je veux dire, c'est pareil dans la forêt, on devrait pouvoir se réjouir et dire c'est deux générations avant, puisque ça se faisait. Hein, j'ai rencontré des élus qui me disaient, mais moi, quand j'étais jeune, avec l'école, on nous emmenait planter le jeudi des arbres, on faisait des corvées. Ça se faisait dans le Jura, ça. De plantation, et certains se souviennent, moi j'ai planté telle parcelle. Et il y a une fierté quelque part. C'est peut-être aussi ça, aussi le lien avec la forêt et les Jurassiens. Je ne sais pas si ça se pratiquait comme ça dans d'autres régions, mais voilà.
Très bien, mais merci beaucoup. Revenons à notre conversation avec Jean-Paul et Sylvestre, forestiers à l'ONF Franche-Comté, rencontrés lors de l'Assemblée générale du réseau pour les alternatives forestières à Saint-Vit dans le Doubs, fin juin 2019. Pour revenir à la forêt qui est juste autour de nous, j'aimerais quand même que vous expliquiez un tout petit peu plus les inquiétudes, les observations que vous avez faites peut-être ces derniers 2-3 ans sur l'impact des sécheresses, de changement climatique. Parce que chez nous, je veux dire, on voit beaucoup plus de descentes de cimes, d'arbres soit morts, moitié morts, etc. Quand je vois autour de moi, a priori, je ne vois pas ça. Quoi. Donc, mais vous voyez quoi en fait? C'est quoi les signes?
Non, ici, la forêt est relativement belle. Nous, on venait d'un peu plus de l'est, autour de Besançon. Il y a des zones d'atteinte très différentes. Ces zones de limon à chaille très profondes, ces sols très profonds, ont quand même un état sanitaire. Il y a de la réserve en eau du fait de la profondeur. Et on voit, on n'a pas des arbres parfaitement feuillés, puisqu'on a montré un chêne le long du chemin qui avait une allure dépérissante, à un stade de dépérissement qui peut être classifié selon des observations d'images d'arbres. Ce n'est plus un état normal. Malgré tout, ce qu'on voit là est très joli au regard de ce qu'on voit autour de Besançon. C'est-à-dire, il y a des centaines, des milliers de mètres cubes d'arbres secs. Voilà, de gros hêtres secs, ils sont secs. Là, on ne voit pratiquement pas d'arbres secs. Et là, bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes stations. C'est des sols décarbonatés, c'est-à-dire de la terre qui vient des dalles calcaires du dessous, peu épais, 20, 40, 50 cm, et avec des gros arbres qui, là, n'ont pas trouvé l'eau l'année dernière, mais les années avant. Mais l'année dernière a été redoutable parce que la sécheresse, en plus, a perduré jusqu'au mois de novembre. Et les arbres, à partir de fin d'août, par exemple, font des réserves racinaires de sève élaborée pour le redémarrage du printemps. Et là, il n'y avait pas d'eau. Donc les hêtres en particulier, là, qui meurent depuis le printemps, ils ont tenté de monter de la sève, des racines, pour faire la première feuillaison, avant que le cycle de la photosynthèse reprenne, et il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de résine, il n'y avait pas de sève qui montait, ça fait des embolies et les arbres en meurent. Mais c'est visible, il y a des centaines d'arbres morts. Sans parler de la maladie du frêne dont on a parlé, le calara du frêne, qui c'est une maladie qui sévit depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant, mais qui a eu une phase extrêmement aggravée, avec beaucoup plus de mortalité, l'année dernière. La sécheresse, bien sûr, atteint les arbres plus fragiles, plus ou vieux ou fragiles, ou déjà atteints par des champignons comme le frêne.
Donc ces mortalités-là, on ne peut pas dire que c'est dû à des interventions humaines ces dernières années.
Oui, c'est vraiment un problème de sécheresse. Quand on diminue la pluviométrie de 1200 à 400, 500, tout d'un coup, les arbres, ils ne peuvent plus tenir. Ils peuvent plus. Et puis ces séquences-là, les années avant, avaient déjà été un peu sèches, donc il y a une espèce de chronicité, de sécheresse comme ça.
Ça s'accumule.
Voilà. Mmh. Et là, 2018, ça a été redoutable. Ça a été très long. Ça continue jusqu'en novembre. Hein.
Je vais intervenir à ce niveau-là parce que j'entendais encore l'autre soir, il y avait sur Arte, là, avec les copains, là, François-Xavier Drouet et puis Frédéric Bédel du Snoop Fun, qui parlaient de forêt. Donc, et juste après, il y avait le débat, un petit débat sur le réchauffement. Et c'était plutôt bienvenu, le rapprochement des deux, parce que la forêt rafraîchit le climat quelque part. Hein. La forêt, elle n'a pas besoin d'émissions de gaz carbonique en plus, mais elle a besoin de forêt pour rafraîchir le climat. Et donc, ce constat fait, il y avait Hervé Le Treut qui était là. C'est très intéressant, Hervé Le Treut, parce que c'est un scientifique du GIEC du Sud-Ouest. Et il y a quelques années déjà, il a mobilisé tous les laboratoires de recherche du Sud-Ouest. Et c'est une région assez riche, assez dynamique, où il y a de l'expertise. Pourquoi ? Pour faire le passé du climat de la région, le présent du climat de la région et des prospectives pour le futur en transdisciplinaire dans des groupes de travail pour faire de la prospective de la gamberge là autour. Et ils ont édité un très beau rapport au grand public, tout à fait passionnant, sur les effets du changement climatique et la nécessaire adaptation. Et c'est le mot du moment. C'est-à-dire qu'on a du mal à l'admettre, mais on est dans un coup qui est parti peut-être depuis très longtemps. Et ce coup-là, il va nous secouer de plus en plus violemment via le climat qui devient un peu chaud. Et donc, ça dope tous les effets de climatiques et donc ça provoque des problèmes pour l'organisation des sociétés humaines, tout simplement. Et du coup, il serait intéressant de rentrer dans ça serait quoi l'adaptation en forêt. Mais l'adaptation aussi, elle doit avoir lieu dans l'urbanisme, dans la prévention, dans l'éducation. Enfin, c'est tout ça qui sert de levier pour réaliser une transition la moins violente, la moins brutale possible. Moi, je suis complètement là. Hein. C'est ça la question d'aujourd'hui, ici et maintenant, à poser d'urgence, mais en même temps, en mettant de la connaissance qui n'est pas aisée et qui soit pluridisciplinaire, qui convoquerait des tas de champs disciplinaires jusqu'aux sciences humaines, la philosophie, la poésie, la botanique. C'est-à-dire, alors, ça veut dire quoi, à un moment, faire ce constat-là ? Mais c'est que peut-être notre modèle, il nous empêche de penser parce qu'on a des pensées séparées, des savoirs séparés, des pensées cloisonnées. Une notion du temps obsolète, parce que le temps, il y a des temps très courts et des temps très longs. Et tous les régimes, tout le social et le politique rentrent dans un régime d'accélération tendancielle. Et ça, c'est le plus dangereux politiquement, me semble-t-il. Et il faut faire ce constat-là. Et ce constat fait, on calme le jeu. Alors, calmer le jeu, c'est un programme. Mais comment faire pour ralentir ? Parce que c'est toute la question.
Mais je veux dire, moi je trouve intéressant que vous tous les deux, vous faites partie aussi d'un mouvement qui s'appelle OSS Forêt, qui a été pas mal impulsé par Snoop Fenn, pas seulement, mais beaucoup, votre syndicat. Donc un peu un cri d'alerte sur ce qui se passe au niveau des forêts. Mais je veux dire, ce que je trouve particulièrement intéressant avec votre démarche, au début c'était en Lorraine, surtout avec notamment Fred Bedel, mais c'était de dire qu'on ne peut pas régler ça tout seul, nous les professionnels de la forêt, enfin la forêt publique. Et moi, ça m'a fait penser à la question de l'agriculture. Il y a beaucoup de gens qui disent maintenant que la forêt, c'est un peu comme l'agriculture il y a 50 ans. Et moi, je trouve que c'est quand même assez juste comme comparaison, parce que c'était quand même aussi parce qu'on a réussi avec l'arrivée d'autres personnes dans le milieu agricole que juste les populations traditionnelles. Il y avait ce qu'on appelle les néo-ruraux. Après, il y avait toutes les questions de consommation. Donc, des gens qui mangeaient des choses et ils voulaient savoir qu'est-ce que c'était. Toutes les questions de bio. Voilà, tout ça, notre modèle agricole, quoi. Et maintenant, ça commence petit à petit, quand même, par rapport à la forêt. Et vous avez visiblement envie que ça se fait, parce que ce n'est pas si évident. Il y a beaucoup de gens dans la profession forestière, peut-être plus dans le privé, mais je dirais aussi dans le public, il y en a, sont très fermés. Ils ne veulent pas qu'on se critique. Les gens de l'école de Nancy ou autres, ils pensent qu'ils savent tout, quoi. Donc, En fait, la question serait comment on arrive à revenir à un stade où on peut observer des bouts de forêt de 14 hectares avec 5 ou 10 différentes variations à l'intérieur d'un tout petit bout de forêt, comme ça, au fond, et agir comme ça, et plus avoir une espèce de directive qui vient de loin, qui est pour toutes les forêts. Comment vous voyez ça? Est-ce que ici, là, ça commence avec SOS Forêt, avec un peu une implication de ce qu'on pourrait appeler les citoyens, comme ça, d'essayer de réfléchir ensemble?
Jean-Paul, je parle beaucoup, mais...
Vas-y.
Mais il me semble que le coup est trop rapide et trop rude pour... C'est-à-dire qu'il y a, il y a des effets comme ça de... Moi, j'ai senti ça avec les pluies acides, par exemple. Il y a... Comment on construit du déni? C'est-à-dire, comment on dit non? Pourquoi on dit non? Parce que c'est trop lourd ou c'est trop douloureux. Et c'est normal, j'allais dire. Là, comment on pourrait dire non au fait que, bon, il a fait 45 degrés dans le sud de la France hier? Oui. Ça veut dire que, comme dit bien quelque part Bruno Latour, faisons nos cahiers de doléances. Alors ça voudrait dire quoi, faire nos cahiers de doléances? Eh bien c'est de dire sur le territoire et l'espace et les gens avec qui on vit, eh bien on fait l'inventaire de ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré, ce qui permettrait l'entraide, ce qui pourrait de, permettrait de coopérer, ce qui pourrait permettre de mettre les ressources en valeur, etc. Et d'aller chercher des bonnes pratiques. Peut-être, c'est ça, hein, je pense. Mais peut-être qu'on en est loin, parce qu'on est quand même très captif de modèles de consommation qui accélèrent tendanciellement cette affaire-là. Et c'est dans ce sens où je parlais des poètes tout à l'heure. C'est pas une petite bluette, la poésie, quelque part, par rapport à ces affaires-là. Parce qu'à un moment donné, c'est comme il faut remettre le monde sur ses pieds, quels sont les mots et quels sont les espaces imaginaires qu'on peut essayer d'élaborer ensemble pour retrouver quelque chose où on marcherait sur la terre, hein, et dans l'humus, comme les artistes ce soir en forêt. Moi, c'est pour ça aussi un peu que je viens, pour observer ce genre de, voilà, de symptômes, quoi, hein, parce que c'est plus un état symptomal d'une grande maladie. Alors après, voilà, ça ne résout pas grand-chose, mais quand même, ça, on se retrouve un peu entre des Indiens Guarani.
Ça me plaît beaucoup ce que dit Sylvestre, ça ne nous gère pas les affaires tout de suite, mais on ne pourra pas faire à la petite semaine. En tous les cas, ceux qui ont des solutions, gérer les forêts dans le changement climatique en 4 pages, il ne faut pas les écouter ceux-là.
Voilà, ça, c'est sûr que...
ouais, c'est vraiment fini les certitudes, on pourrait dire.
Oui, voilà, il ne faut pas, non, faut pas nous la faire. non, mais il faut, voilà, je crois que ça serait une belle conclusion.
Très bien. Ok, merci. C'était Forestier public, militant et inquiet, la 28e émission de la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Vous pourrez trouver plus d'informations sur les activités du réseau ainsi que toutes les émissions dans la série Entre cimes et racines sur le site du RAF www.alternativeforestiere.org. Les musiques qui ont accompagné cette émission sont de Renaud Garcia-France et Camarata Mega.